pour un nouvel épisode du C'est Cave Show. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut Nico, eh ben, ça va très bien, je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec toi et on est reparti pour un épisode de news, ce qui est un truc qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps.
Qu'il y en a des tonnes aujourd'hui et beaucoup vont être très très heureux parce que très souvent je parle sur My Chromebook de petites fonctionnalités. Pourquoi des petites? Des fonctionnalités point, qui sont arrivées sur le canal Canary ou le canal Dev de Chrome OS et tous me disent mais à quand pour nous sur le canal stable? Et aujourd'hui on a une multitude de nouvelles fonctionnalités. Ouais, j'essaye d'en rajouter, ça fait vachement mieux. Une multitude de fonctionnalités qui sont arrivées depuis le 19 mars. Donc, j'ai pu en tester quelques-unes, alors pas encore tous. Je m'attelle à tous les tester les unes derrière les autres et j'ai un petit peu de temps, donc c'est cool en ce moment. Je m'amuse très bien. T'en as testé, toi, t'as déjà vu un petit peu tout plein de news qui sont sorties ou pas du tout?
Alors, j'ai suivi les news. Je lis mychromebook.fr tous les matins religieusement pour justement suivre un peu tes découvertes. Mais j'avoue que non, ça fait longtemps que j'ai pas rebooté mon Chromebook, en fait, pour être très honnête avec toi. C'est ça aussi l'avantage des Chromebooks, c'est que finalement on n'a pas forcément besoin de le redémarrer très souvent. Donc ça doit faire au moins une semaine que je l'ai pas redémarré et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, la version 65 de Chrome qui vient d'arriver sur le canal stable, hein, c'est ça dont on va parler.
Le canal stable qui débarque avec beaucoup de fonctions que tout le monde avait hâte d'essayer, des fonctions qui sont liées à l'univers d'Android qui viennent tranquillement s'apposer sur Chrome OS. Donc ça va être super sympa.
Ouais. Donc voilà, je compte sur toi pour me tenir au courant.
Pas de souci, c'est mon job, je suis là et je vais te dire. Donc on y va tout de suite, sans transition aucune, hein, pourquoi pas. On en a déjà parlé, Chrome OS 65 qui vient de débarquer sur le canal stable. Le canal stable, alors pour rappel, il y a plusieurs canaux sur Chrome OS. Il y a les pas téméraires, ceux qui sont plutôt pépères, qui n'ont pas envie d'être embêtés. C'est le Chrome OS sur le canal stable, donc vraiment la fonction de base qui fonctionne parfaitement sans aucune anicroche. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouvais ça sympa. c'est également après on a le canal bêta, donc qui est plutôt stable, qui est même plutôt beaucoup stable, mais qui peut y avoir quelques petits bugs, mais rien du tout de très embêtant à l'utilisation au quotidien. Le canal dev là qui devient craignos, c'est un petit peu pour c'est plus pour les casse-cou. Alors beaucoup moins que le prochain qu'on va dire, mais le canal dev, on découvre 6 semaines avant le canal stable toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles interfaces et autres choses. Et puis il y a le canal Canary. Alors là, c'est même pas les casse-cou, c'est l'agence touriste, c'est MacGyver. C'est si tu sais pas te dépatouiller avec un stylo et puis un ressort et un chewing-gum, tu pourras pas t'en sortir dans la vie. Et là, c'est vraiment, faut monter d'un cran. Et je le conseille pas à tout le monde parce que son Chromebook est un petit peu capricieux, très souvent d' ailleurs. Donc moi, perso, j'ai un Chromebook sur le canal Canary et un Chromebook sur le canal Dev et je me sers principalement de celui qui est sur le canal Dev. Donc, plutôt sympa. Toi, tu es sur le canal stable, hein, Thomas, je crois.
Ouais, moi, j'utilise le canal stable en général.
Moi, c'est plus sûr, surtout que tu n'es pas développeur, tout ça. Donc, je ne sais pas si tu arriveras à te débrouiller. Avec...
Ouais, non, bon, ok, je suis un peu pépère et j'avoue que avoir mon Chromebook qui redémarre de façon intempestive ou des trucs qui marchent pas comme prévu, ça a tendance à m'irriter. Ça dépend. En ce moment, je suis sur le stable. Fut une époque où, ça dépend quel Chromebook d'ailleurs. Mais, on va dire que le Samsung est sur le canal stable. Mais, fut une époque où j'étais sur dev. C'était pas forcément terrible. On va dire que le stable, en général, ça me convient bien. Et comme je te disais tout à l'heure, je compte vraiment sur toi pour me tenir au courant quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les autres canaux.
Alors du coup, on y va sur les fonctionnalités parce qu'on en a un petit paquet. Alors, je vais pas tous les détailler parce que je pense que ce serait trop long. Et puis, comme d'habitude, on va essayer de pas dépasser l'heure, qu'on n'arrive jamais à faire d'ailleurs. J'ai fait un article sur mychromebook.fr. Alors, cet article sort directement du Chrome Realize de Google. Donc, avec, j'ai simplement traduit ce qu'il nous avait dit. Tu l'as lu un petit peu l'article, Thomas, ou pas du tout?
Un petit peu, ouais, je l'ai parcouru.
Alors, je sais même pas par quel. Qu'il y a pas mal de choses qui n'intéressent pas l'utilisateur lambda. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien pour nous. Enfin, on a l'impression que ça sert à rien. Je saurais des fois même pas l'expliquer. Mais d'autres choses plutôt intéressantes. Alors, moi, je vais aller sur les choses que tout le monde aime, j'imagine. Par exemple, on va des petits gadgets qui servent à rien. On en avait déjà parlé il y a super longtemps. C'est l'enregistrement vidéo court pour les images de profil, par exemple, qui viennent débarquer sur Chrome OS 65. Tu te souviens, en fait, on peut bouger la tête et puis il fait un GIF animé de notre vidéo.
Ouais.
Bon, totalement inutile, mais qu'est-ce que c'est super important de l'avoir sur son Chromebook. Ça donne quelque chose de plus,
ouais, c'est classe,
plus important. Quoi. Oh bah c'est top class. Attends, sur Mac, on peut pas faire ça. enfin, je crois pas. Ça fait des gifs déjà, ouais, je crois. On va avoir des options pour les écrans aussi, pour l'installation de façon tablette, en fait. On va avoir les versions Android qui débarquent sur Chrome OS 65 façon Android. Donc quand vous avez un Chromebook tactile, vous pouvez le passer en mode tactile et là on a une interaction beaucoup plus tablette tactile Android, donc une prise en main qui est quand même assez intéressante. Je sais pas si toi tu l'utilises, c'est ton Samsung, il est convertible, tu l'utilises un petit peu en tablette ou pas du tout le tien?
Ouais je l'utilise un petit peu. Après, je t'avoue que j'ai des doutes quant à l'utilisation du clavier détachable comme ça. C'est vrai que l'écran est grand, donc finalement ça te fait presque une tablette géante, mais l'avantage de la tablette, ben c'est que tu peux, en tout cas l'intérêt de la tablette justement, c'est que tu peux interagir au touch sur les interfaces, et c'est pas vraiment dans l'idée de se mettre à taper du texte quoi. Donc peut-être qu'un clavier d'appoint de temps à autre ça peut servir, mais c'est vraiment pas pour l'avantage du clavier tactile, c'est vraiment pas pour le clavier tactile que j'utilise mon Chromebook en mode tablette. Mais bon, après, pourquoi pas? Je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils estiment qu'il y a un certain nombre d'usages qu'ils nécessitent et qu'il y a des gens qui vont apprécier cette fonctionnalité.
C'est un truc je l'utilise un petit peu. Moi, il y a un truc que j'apprécie et un autre que j'aime moins. C'est le fait que tu puisses l'utiliser à une main, ton clavier, puisque tu peux le basculer où tu veux, tu peux le positionner où tu veux sur ton écran.
Ouais.
Donc, je le mets sous mon pouce, forcément. Donc, tu sais, vu que l'écran, comme tu l'as dit, est un peu grand, quand je le prends en mode portrait, j'ai ma main qui est souvent au milieu de mon écran.
D'accord.
Tu vois, sur la tranche droite, je suis droitier, donc la tranche droite de mon écran en plein milieu. Et donc, j'ai positionné le clavier à l'endroit de mon pouce, en fait.
D'accord.
Ça, je trouve ça génial. Donc, c'est plutôt sympa. C'est un petit peu lent pour moi parce qu'un seul doigt, c'est pas évident. Par contre, ça me permet de surfer facilement, tu vois. Je lance une URL rapidement. En plus, Google se souvient des sites où je vais tout le temps. Donc, je tape les deux premières lettres, puis pouf, il me trouve directement le site.
D'accord.
Les services. Je lance le search, tu sais, avec la recherche directement dans le Chromebook. Et je tape deux, trois premières lettres. Pareil, il va me sortir tout un listing d'applications. Donc, je peux le lancer comme ça.
Mm-hmm.
Ça, c'est les choses que j'aime bien, en fait. Je trouve ça très, très intéressant. Alors, pas pour écrire un texte, hein. Clairement, on va pas écrire un roman avec ça.
Ouais.
Par contre, c'est intéressant pour naviguer un petit peu, pour une petite utilisation. Là, ce qui me manque et qui existe peut-être que je n'ai pas trouvé ou qui n'existe pas, ils ont intérêt à le mettre, du coup, c'est le swipe. Tu sais, le clavier swipe.
Ouais.
Il n'y est pas. En fait, je peux pas glisser mon pouce sur trois lettres à la fois. Du coup, je suis obligé de lever mon pouce de mon écran tactile pour taper mes lettres. Alors que si j'avais le swipe, et moi je l'utilise énormément sur mes smartphones, j'utilise plus que ça comme clavier depuis que swipe existe. Donc, et d'ailleurs. De ce type de clavier-là. Lui qui a inventé le clavier glissant, si on peut appeler ça comme ça.
D'accord.
Ils viennent d'arrêter l'application swipe. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, Google l'a repris dans son clavier.
Ils n'avaient pas été rachetés par Samsung, il me semble, cette boîte-là, Swipe avec un Y.
Ouais, peut-être, ouais. Swipe avec un Y, ouais, peut-être. Je sais pas du tout, mais leur application est plus tenue à jour sur le Play Store, par exemple, sur Android.
D'accord. Ok. Bon bah écoute.
Arrivé sur le Google, en fait.
Espérons que d'autres personnes vont reprendre ça à leur compte et comme tu dis que Google va rajouter cette fonctionnalité. Mais il me semble que ça y est, hein, sur le clavier Google, là, le Gboard sur Android, et il me semble que tu peux activer le swipe.
Sur Android, oui, ça c'est sûr, je l'utilise au quotidien.
Ouais.
Sur le Google Board. Par contre, sur Chrome OS, il n'y est pas.
Il n'y est pas, ok, d'accord. Bon, ça devrait arriver assez rapidement.
Clairement, oui. Donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées tranquillement pour le Chrome OS Stable 65. Est-ce que je parle des choses un peu complexes ou ça sert à rien, tu penses, Thomas ?
Écoute, je pense que c'est l'occasion de faire de la promo pour l'article qui s'appelle Chrome OS 65 est arrivé avec une tonne de nouvelles fonctionnalités sur mychromebook.fr.
Je connais pas, mais j'irai voir. Ouais, j'irai jeter un œil ce soir, qui me paraît fort, fort intéressant et très très bien écrit d'ailleurs.
Donc ouais, Nico a fait un article assez complet sur mychromebook.fr. Donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez plus de détails. Il y a beaucoup, comme tu dis, il y a des fonctionnalités qui sont. Là, on a parlé des choses les plus visibles, mais après il y a pas mal de choses un peu plus bas niveau, on va dire, pour les gens qui s'intéressent à des choses un peu plus pointues. Donc allez jeter un coup d'œil sur l'article et vous aurez tous les détails.
C'est le mieux, je pense, hein, clairement, ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et si on peut en parler un petit peu, on a juste ils ont fait les mises à jour pour les failles Meltdown.
D'accord.
Dedans. Ouais. Donc elles sont intégrées dans Chrome OS 65. Donc si vous avez la mise à jour, faites-la, ça vous aidera un petit peu sur ces failles. Bon, on a très bien vécu jusqu'alors, donc est-ce que c'est important, pas important, c'est vous qui le jugerez en tout cas. Mais voilà, ça peut être intéressant d'en parler en tout cas.
Ouais, cool. On parle toujours d'interaction, et donc il y a Android et Chrome OS qui se rapprochent et qui se ressemblent de plus en plus. J'ai l'impression que c'est un peu notre slogan, quoi. Android et Chrome OS se rapprochent. C'est le refrain qu'on vous chante toutes les deux semaines ou tous les mois dans le CKB Show. Mais là, cette fois-ci, c'est sur le bouton, les longues presses sur le bouton Power, c'est ça ?
Vous connaissez tous, enfin, si vous avez un Android, je crois que sur Mac, ça fait la même chose. Non, ça fait pas. Sur iOS, ça fait pas la même chose.
Si. Enfin.
En
la
fait,
même chose.
Vous connaissez, je te laisse. Pas tout à fait.
Ouais. Ouais, pas tout à fait.
On appuie simplement, enfin, vous le connaissez, ceux qui ont un Android, donc c'est 86% du marché ou 16% du marché mondial, donc beaucoup. Si vous appuyez longtemps sur le bouton, alors longtemps, quelques secondes, sur le bouton power, on, off, comme on appelle, allumé, ouais, le bouton power, quoi, de votre smartphone, ou de votre tablette Android, il y a une espèce de pop-up ou une fenêtre qui arrive avec plusieurs possibilités pour interagir avec votre smartphone. La première, bah, vous la connaissez tous, c'est éteindre. Bon, bah, vous appuyez sur le bouton éteindre, voilà, il s'éteint, bof, c'est fini, on recommencera, on le rallume si on veut le rallumer. Une deuxième fonctionnalité qui est plutôt intéressante, qu'on a fait, on a rajouté une option, on a supprimé un logiciel ou autre chose comme ça, enfin, une application, des fois, ça demande ça peut être intéressant de rebooter, de redémarrer son smartphone ou sa tablette. Et ben, vous avez le bouton restart ou redémarrer, je pense. Ouais. Et puis, il y en a un autre, mais j'ai un trou de mémoire sur le troisième. C'est pas un screenshot en fait.
Quand tu long presses, bah ça dépend. En fait, ça dépend du téléphone que tu utilises en fait, parce que je crois que sur Samsung, ça a pas la même tête que sur Android. Là, sur Android, moi j'utilise Oreo et en fait c'est justement le bouton restart ou power.
Donc il y en a que deux, mais c'est très bien. Et du coup, bah ils arrivent sur nos Chromebooks. Encore une nouvelle. Une nouvelle interaction, un nouveau jumelage, un rapprochement entre Android et Chrome OS.
Un plus.
Et du coup, alors qui c'est qu'on a parlé d'ailleurs, c'est Chrome Unboxing, je crois, qui en parlait très bien dans son article. Donc j'ai pas fait d'article dessus, donc allez voir chez eux, c'est très très bien fait.
Et puis c'est un post Google Plus de François Beaufort d'ailleurs, qui est à l'origine de cet article.
François, ouais. C'est lui d'ailleurs qui l'a développé, je crois.
Ouais. Il faudrait qu'on arrive à lui parler, hein, quand même, à ce François Beaufort, parce que j'ai l'impression qu'il est partout, on n'arrête pas de parler.
S'il écoute le podcast, il sait comment nous joindre normalement, donc ce serait bien qu'il nous fasse un petit big up. Et puis, en plus, j'ai pas de décalage horaire avec lui, il est à Paris dans mes souvenirs.
D'accord.
Ce serait facile pour enregistrer n'importe quand. Je prends une journée de repos s'il faut, je monte à Paris et on enregistre en live. pas maintenant, il y a les grèves de la SNCF, ça va être compliqué de monter à Paris, mais incessamment sous peu. on voit ce clavier arriver, enfin ce bouton power qui change, et même sur nos Chromebooks. Donc cette fois, vous passez votre tablette, votre Chromebook en mode tablette, et hop, vous appuyez dessus, vous avez ces deux possibilités qui viennent s'offrir à vous, en fait, très simplement. Alors, encore une interaction, beaucoup d'interactions. On a un clavier flottant qu'on retrouvait sur Android, on a ce bouton qui vient d'apparaître. Souvenez-vous, on en a parlé il y a deux CKB Show, enfin pas le dernier puisque c'est un spécial hors série, mais celui juste avant, on avait parlé des écrans scindés façon Android sur Chromebook. Ouais. On avait dit quoi encore? On avait dit plein de choses. Il y en a tellement que je sais même plus.
Ouais.
Ah si, le pull to refresh, le glisser pour rafraîchir, qui est arrivé aussi sur Chromebook, enfin sur Chrome OS.
Ouais.
Donc ouais, en fait tout ça,
ça arrive tout doucement. En gros, ton Chromebook ressemble de plus en plus à un téléphone Android géant avec un clavier.
Et du coup, j'ai une réflexion. Je t'en ai parlé juste avant l'enregistrement, Thomas. J'écris un article en ce moment. Vous allez tous me détester. C'est encore un article. Vous allez me dire ah le titre machin tout ça. Ok, très bien. Qui est Google abandonne Android sur les tablettes. Sous-entendu, est-ce que Chrome OS ne va pas prendre la part des tablettes à Android? Parce qu'on le voit aujourd'hui, le marché des tablettes se porte pas forcément très très bien. Que les gens ne veulent plus de tablettes, à mon avis. Hein. Je pense pas qu'on en soit là. C'est juste que le turnover, comment on appelle ça, le changement est plus long en fait avant de décider de changer une tablette.
Ouais.
Tu vois, moi je vois mes parents, ils ont la même depuis 5 ans, ça leur convient très bien.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de changer de tablette tous les ans, quoi. Alors que, ou même tous les 2 ans. Alors qu'un téléphone qu'on utilise quasiment tous les jours, enfin qu'on utilise tous les jours de façon assez intensive, c'est vrai que ça a plus de sens de le changer régulièrement.
Du coup, je m'étais dit, peut-être que la prochaine génération de tablettes Android, en fait, fonctionnera sur Chrome OS. Et peut-être que ça s'appellera plus Chrome OS, d'ailleurs, parce que ce sera tellement proche l'un de l'autre qu'on ne saura plus les distinguer l'un de l'autre, en fait. Ce sera peut-être juste, je sais pas, Fuchsia OS ou autre chose.
Ouais. Alors, ouais, Fuchsia, c'est encore un autre univers dont qu'on a rapidement évoqué dans ce podcast, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Fuchsia. Mais oui, c'est vrai que oui, Android et Chrome OS vont clairement se rapprocher, et vont clairement continuer à se rapprocher. Ouais. Aucun doute là-dessus.
C'est de plus en plus flagrant. Mais je trouve que c'est même avoir Chrome OS sur une tablette que Android. En fait, Android n'est pas fait pour les tablettes. Je crois qu'ils avaient fait une version d'ailleurs d'Android pour tablette. C'était pas Gingerbread qui était fait exprès pour tablette.
Ouais. Non, c'était Honeycomb, je crois. Mais il me semble. Mais oui, c'est vrai que ça avait été conçu. Honeycomb, je crois, avait été conçu initialement pour les tablettes, il me semble.
En fait, une tablette, c'est quand même plus gros qu'un téléphone. Merci, Nicolas. au cas où vous en étiez pas rendu compte. C'est plus gros qu'un téléphone. Et moi, j'en ai des tablettes. Enfin, vous le savez que j'en ai plusieurs. Et je me sers pas du tout. Quand je me sers de ma tablette, c'est pour faire quoi? C'est même pas pour regarder un film, parce que j'aime pas la tenir à une main pendant 45 minutes sur une série ou je sais pas quoi. Je m'en sers pour lire un bouquin parce qu'elle est trop lourde. Je m'en sers pour quoi, en fait? Je regarde le journal télé dessus, je crois. Je crois que c'est tout. Et il manque toujours ce clavier. Bah, tu l'as justement dit, c'est trop gros pour avoir un clavier tactile, le clavier flottant. Un Chromebook, c'est trop gros pour avoir ça.
Ouais.
C'est inconfortable. La tablette, c'est le même cas. Sauf que la tablette, bah, tu l'as dit, il faudrait mettre un clavier en Bluetooth, machin. Il faut qu'il soit chargé. Et ça, c'est compliqué. Là, le Chromebook, bah, tu veux écrire, paf, tu changes, tu passes du mode tablette au mode PC, et ça y est, t'as ton clavier, quoi, tu te prends pas la tête. Et je trouve que c'est plus judicieux d'avoir Chrome OS. Tu peux brancher en USB, tu peux brancher un USB sur une tablette. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est compliqué de brancher un USB sur une tablette. Tu peux pas brancher ton disque dur, ta carte mémoire, une clé USB ou un disque dur externe. C'est super compliqué sur une tablette. Donc en fait, t'es limité dans ton utilisation de tous les jours. Ouais. Pour moi, est mieux sur tablette que Android. À voir ce que Google va faire, mais je pense qu'ils vont m'écouter, ils vont faire ça.
Ouais, écoute, je pense que c'est la direction qu'on voit. J'aurais vraiment du mal à les voir partir dans le sens inverse maintenant, mais c'est vrai que il y a Ouais, à voir comment les choses ont évolué, mais je pense que là, on est clair, l'époque de la Pixel C qui tourne sur Android versus Chrome OS, je pense qu'elle est révolue. Et là, c'est au mieux, ce sera un Chrome OS qui sera androidisé, mais je pense que l'époque où les tablettes tournaient sur Android est révolue.
D'accord. D'ailleurs, si nos auditeurs, podcasteurs, comment on dit? Les
Poditeur?
gens qui nous écoutent. Poditeurs, merci. Si les poditeurs sont d'accord avec moi ou pas, hein, parce qu'il y en a qui ont le droit de ne pas être d'accord. Bon, ceux-là, ils ont tort, mais pourquoi pas. Je vous invite à réagir avec nous sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. On mettra les liens à la fin de la description du podcast, mais je suis curieux, avant de finaliser mon article, d'avoir les retours de tout le monde. Ça peut être cool de pouvoir échanger avec vous et de prendre chacun son point de vue. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, c'est très bien. Je suis prêt à changer d'idée, d'opinion. Ceux qui sont d'accord, bah, tant mieux. Mais qui me disent pourquoi ils sont d'accord et qu'est-ce qu'ils verraient pour l'avenir, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, qu'on puisse échanger avec quelqu'un, avec des personnes autour de ça.
Ouais, c'est une très bonne idée. Et on pourrait échanger sur Telegram, par exemple.
Voilà, quelle transition. Eh oui, Telegram.
on en reparlera un petit peu tout à l'heure. On a fait quelques petits changements autour du CKB Show et on a maintenant des moyens pour communiquer avec vous et aussi pour vous donner l'opportunité de communiquer avec nous dans les deux sens. C'est comme ça que marche en général la communication. Mais ouais, on en parlera tout à l'heure, mais un groupe Telegram par exemple a été créé pour le CKB Show, donc on vous invite à le rejoindre et à nous donner votre avis. Cool. Donc là, on venait de parler de Chrome OS et des tablettes. Ah oui, il y avait une autre news un petit peu dans la même veine en termes d'interaction. Il y a le pinch to zoom. Donc comment est-ce qu'on dit en français? Pincer et zoomer, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Pincer pour zoomer ou un pincer truc comme pour ça. Zoomer,
ouais. Qui est supporté sur la plupart des Chromebooks. C'est pas forcément très très nouveau. On va dire que c'est quelque chose qui avait fait son apparition il y a quelques mois maintenant, sur certains Chromebooks, dans certains... pas sur tous les builds. Et là, ça y est, c'est quelque chose qui est généralisé. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester ou de jouer un petit peu avec, ou si tu avais remarqué que ce truc-là était présent sur les Chromebooks.
Alors ouais, moi je l'utilise. Bah, j'avais fait un article quand c'est arrivé sur le canal dev sur les miens. Mais j'en ai pas parlé qu'il arrive sur tous les Chromebooks, donc c'est plutôt judicieux d'en parler aujourd'hui. Merci Thomas. Super utile. Je vais te donner un seul exemple sur les Chromebooks qui n'ont pas d'écran tactile.
Ouais.
Simplement. Vous savez, c'est zoomer. Vous pincez, vous écartez vos doigts, ça va zoomer. Vous rapprochez vos doigts, ça dézoome. Comme on a l'habitude de le faire sur un smartphone. Vous savez, sur votre smartphone, vous prenez une photo, vous zoomez à fond sur le visage de quelqu'un, puis vous dites, ah, la photo, elle est moche, elle est toute pixelisée. Ouais, bon, on zoome pas sur le visage de quelqu'un. Enfin, c'est dégueulasse de faire ça. Bref, mais on a cette habitude d'utilisation au quotidien de, on pince pour zoomer, on dépince, c'est devenu une routine normale. Enfin, je sais pas, tous les jours, je l'utilise. Je surf sur Internet sur mon smartphone. Il m'arrive des fois de zoomer sur mon navigateur web depuis mon smartphone. Et ben, je le fais également sur Chromebook. Moi, j'ai la chance d'avoir des Chromebooks avec des écrans tactiles. Mais ceux qui ne l'ont pas, ben, du coup, avec leur trackpad, leur souris, le souris du Chromebook, vont pouvoir faire la même chose. Et ça, c'est super génial. Enfin, je ne sais pas si toi tu l'utilises, mais moi je l'utilise vraiment souvent. Et c'est une routine que j'utilise bien parce que en fait sur le trackpad il y a quand même plein de raccourcis. Tu les connais, tu slides de deux doigts du haut vers trois doigts du haut vers le bas. Ben en fait on a le multi-fenêtrage qui apparaît. On a quand t'es sur le navigateur deux doigts côte à côte, tu vas sur la gauche, ben tu reviens en arrière et ainsi de suite. Donc c'est tout un ensemble de raccourcis gestuels,
ouais,
qui est applicable sur Chromebook.
Il y a aussi les trois doigts pour changer d'onglet.
Doigts quand on est sur le... C'est trois ou deux? Ouais, c'est trois, t'as raison.
C'est trois, ouais. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être faire un mini dossier, un de ces quatre, sur les interactions via le trackpad sur Chromebook, parce que ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des interactions d'utilisateurs avancés que les gens qui nous écoutent ont peut-être envie de connaître ou en tout cas un petit rappel sur ces interactions qui existent depuis un petit moment et qu'on utilise de temps en temps je suis sûr qu'on utilise tous à nous tous en fait on les utilise tous mais personne n'utilise forcément les mêmes et personne n'utilise les mêmes en même temps, enfin tu vois ce que je veux dire, C'est trop
Ouais, non, mais
marrant.
clairement. Mais enfin, moi, j'en utilise beaucoup. Alors, te dire que je les utilise tous, bah, sûrement pas. Mais c'est un gain de temps au quotidien. C'est comme les
Ouais.
raccourcis clavier, quoi. C'est, pour
Ouais, c'est
moi, ça
ça.
fait partie de la boîte à outils nécessaire pour bien utiliser un ordinateur en général, sans parler d'un Chromebook, hein, en général, maîtriser les raccourcis, les gestuels,
Ouais.
c'est presque la base, mais quand on ne le sait pas, ben on ne le sait pas.
Ben voilà. Ouais, exactement. Cool. Donc voilà, donc ça c'était pour les histoires de gestuelle sur le trackpad. On transitionne un petit peu et on parle de choses un peu plus système, on va dire. Donc non, maintenant, si j'ai bien compris, on a la possibilité de renommer les périphériques USB directement à partir de l'explorateur de fichiers, c'est ça?
Ouais, ça y est, j'ai plus honte. J'ai plus honte. Au bureau, j'ai plus honte d'avoir un Chromebook quand je dois basculer, passer ma clé USB à un collègue parce que j'ai un fichier dessus. Alors tu me diras, bah, utilise le drive. Ouais, mais il y en a qui sont réfractaires. C'est eux qui devraient avoir honte, hein, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, toutes mes clés USB s'appelaient SanDisk, Untitled, sans titre. Comment on le dit en anglais? T'es meilleur que moi.
Untitled.
Title, merci. Enfin, il avait le nom de la clé USB que j'avais achetée, tu vois. Et quand je devais filer ça à mon boss, parce que lui, il aime pas Drive, enfin, il aime pas le cloud, mais il doit être vieux.
On le salue, hein, d'ailleurs, s'il nous
Alors,
écoute.
c'est tous hein, bien, mais voilà. En France, on le connaît bien. Mais quand je lui donne ça, et pourtant, putain, le mec, c'est quand même lui qui. Bon, bref, je digresse, je digresse. Une clé USB où il y a marqué SanDisk dessus, moi j'ai un peu honte. Alors du coup, j'aimais bien, j'allais voir un de mes collègues, je lui dis, Eddie, tu peux me passer ton Windows? Alors tout penaud, hein, la queue entre les jambes, comme dirait l'autre, parce que faut que je renomme ma clé USB. Il me fait, mais vas-y, fais-le avec ton truc pourri là. Et je lui fais, bah je peux pas. Et bah il se foutait de ma gueule.
Bah
C'est fini, ça y est, c'est fini. Et je peux maintenant renommer tous mes périphériques USB de stockage. Juste, alors vous, c'est un truc de dingue. Bon, vous allez rire, ceux qui utilisent Windows ou Mac, je la branche sur le port USB de mon Chromebook, je vais dans l'explorateur de fichiers, je fais un clic droit. Donc c'est deux cl Ah bah c'est encore une gestuelle à apprendre sur Chromebook, donc j'appuie deux fois, deux doigts à poser sur mon trackpad en même temps, sur le nom de la clé USB, qui est pour l'instant qui s'appelle SanDisk, qui s'appelle je ne sais pas quoi, et j'ai un champ texte et je peux mettre ce que je veux.
D'accord.
Ça claque, hein?
Ouais.
Enfin, voilà quoi. Donc, c'est fait et
Le
c'était un truc.
futur,
Enfin,
je vous dis, c'est le futur.
c'est. Mac n'a plus qu'à bien se tenir avec ça. Bon, vous rigolez, on rigole, mais je comprends pas pourquoi ça n'était pas fait avant. Mais quand on connaît le commencement de Chrome OS, on se doute de pourquoi ils n'y avaient même pas pensé.
Ouais.
Stocker du périphérique où c'était vraiment accès à Internet, mais pourquoi le faire 6 ans après quoi? Enfin, c'est bizarre, mais bon,
Ouais.
ça marche et très bien d'ailleurs.
Cool.
Ouais, j'ai plus honte.
Du coup, t'as aussi un autre. Donc, j'ai vu que tu avais mis ça dans les news. Une autre news intéressante pour exporter ces fichiers au format CSV. Là, j'ai mes sourcils qui se lèvent un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'exporter nos fichiers dans un CSV?
Pourquoi pas? Bah, je te dirais. Hein?
C'est pas un peu risqué de se retrouver avec un CSV avec tous nos mots de passe à l'intérieur?
D'accord. Alors, pourquoi on vous. Alors, si c'est hyper risqué. Genre, je l'ai mis sur un carnet sur mon bureau, tous mes mots de passe. Hein, si tu viens me cambrioler, tout est dedans. La
Ouais,
combinaison de mon
le
coffre-fort,
le
l'alarme.
post-it sur l'écran.
Ouais, mais ça se fait plus, hein, les post-it sur écran. On ne les voit
Non.
plus autour de l'écran, France Télévisions ou des choses comme ça. On voit plus, ça, c'est fini.
Ouais, c'est vrai.
C'est un truc de fou. Alors, pourquoi on voudrait? Alors, je te rejoins où c'est hyper risqué de faire ça.
Ouais.
Par contre, tu vois, je te donne mon exemple. Aujourd'hui, j'utilise Chrome parce que Chromebook, parce que pour moi, aujourd'hui, un des meilleurs navigateurs au monde, pour beaucoup de monde, visiblement. Mais si j'ai envie de changer sur
Ouais.
Opera.
Ouais.
J'ai envie de passer sur je sais pas quoi, n'importe lequel. Qwrant qui a créé son propre navigateur web, je crois. Bref, j'ai envie de passer sur cela. Sauf que tous mes mots de passe, c'est Google qui les a et ils sont sur mon navigateur Chrome via mon adresse Gmail. comment je fais pour les basculer de l'un à l'autre aujourd'hui sans fiche? Enfin, comment je fais? Je peux pas, en fait. Ils sont dedans et il faut que je me les retape tous un par un.
Ouais. Non, c'est vrai.
Et du coup, ça me saoule un peu d'être prisonnier de... Alors, ce que... J'aime pas être prisonnier de quelqu'un. J'aime bien Google, j'aime bien Android, parce qu'en fait, je suis plutôt libre de mes mouvements. J'ai envie de planter mon Chromebook, je le fais, j'ai le droit. Tu vois, je l'ai acheté, si j'ai envie qu'il fonctionne plus, il fonctionne plus, puis basta. Ouais. J'ai envie d'envoyer un MMS avec mon smartphone. À une époque, je fais ce que je veux. C'est pas Apple qui va décider si j'ai le droit ou non d'envoyer un MMS.
on sent la colère dans ta voix, Nico.
La rancune. Ça fait 10 ans, le mec. Il envoie toujours des MMS, tiens. Enfin, bref. Et... J'ai pas envie qu'une société décide si je dois rester chez elle ou pas.
Ouais.
Et grâce à ça, en fait, Google l'a compris et nous donne la possibilité d'exporter tous nos mots de passe, identifier un mot de passe dans un fichier CSV. Donc, on peut le lire sur Excel, on peut le lire sur Google Sheet. Donc, c'est pas rassurant d'avoir ça comme ça quelque part. Ça a pas vocation d'être conservé, je dirais.
Ouais, c'est ça. En gros, ça peut servir pour se transférer les mots de passe. Tu as une nouvelle machine ou tu as une nouvelle machine où tu as besoin d'avoir accès à ces mots de passe-là. Et du coup, tu peux les transférer de cette façon-là.
Toi, je crois que tu utilises une extension de mot de passe. Enfin,
ouais.
Comment on appelle ça?
Un gestionnaire de mots de passe.
Ça. Bah, tu vois, aujourd'hui, tu as tous tes mots de passe sur Google ou tous tes mots de passe sur ton gestionnaire de mots de passe, par exemple. Ouais. Tu veux peut-être pouvoir les récupérer et puis les mettre ailleurs. Tu n'es pas prisonnier d'eux. Enfin, c'est nul d'être prisonnier de quelqu'un. Donc, Google l'a compris. Bon.
Ouais, non, vas-y, je ne vais pas t'interrompre. Je pense que c'est la phrase du jour. C'est nul d'être prisonnier de quelqu'un. Et personne peut te donner tort. C'est clair que tout le monde sera d'accord avec ça. C'est nul d'être prisonnier.
Ouais. Bon, ça sera le titre de l'émission. Tiens. Google, en fait, te permet d'exporter ça et de l'amener dans ton gestionnaire de mot de passe et celui que tu veux. T'es pas obligé de garder celui de Google. Et c'est ça que j'apprécie dans ça. Mais encore une fois, on l'efface après, quoi. Il faut le supprimer. Il faut pas le garder, ce fichier CSV, parce qu'il est en clair. Tous vos mots de passe sont en clair.
Ouais.
Mais j'ai trouvé ça bien et je pensais qu'en parler, ça pouvait être intéressant, mais aussi prévenir qu'il ne faut pas le laisser traîner, quoi.
En gros, c'est pratique, mais c'est dangereux. Donc, il faut faire attention. C'est comme une bouteille de gaz.
Pratique, mais dangereux.
Je pense que c'est une bonne analogie, en fait. Ouais, c'est ça.
C'est pratique, mais ça peut être dangereux.
Voilà. C'est très pratique, mais c'est à manier avec précaution. Mais c'est bon à savoir, ouais. Donc, on peut exporter nos mots de passe dans un fichier CSV. Pour pouvoir transporter les mots de passe avec nous. Cool, donc ça c'était les petites nouvelles du système, les petites nouvelles Chrome OS. Alors on va vous parler d'Apple, ce qui nous arrive très rarement, mais quand même de temps en temps. Non, en fait on en parle tout le temps d'Apple, mais comme d'habitude on va vous en parler en mal, donc ou en tout cas on va vous parler l'événement Apple. Focalisé sur l'éducation qui arrive dans les semaines qui viennent. Il me semble que c'est le 27 mars. Donc voilà, donc c'est dans quelques jours. Si ça se trouve, ce sera déjà passé au moment où vous écouterez ce podcast. Avec Nico, on rigole hein, quand même, on se marre quand même bien parce qu'on voit que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, tout le monde est en train de se rendre compte que les Chromebooks ont... pris d'énormes parts de marché dans l'éducation et tout le monde se réveille en se disant mais il faut absolument qu'on essaye de se refaire et d'offrir une concurrence sérieuse au Chromebook dans le marché de l'éducation. Et quand on dit l'éducation, en fait on parle des écoles et un petit peu des universités, mais surtout des écoles. Et on rigole avec Nico parce que à chaque fois ça marche pas, quoi. Windows a lancé tout un tas d'initiatives. Je crois que c'était il y a 6 mois à peu près. Ils ont lancé. Donc c'est en général quand on dit initiative, il y a plusieurs volets. Donc c'est déjà une gamme de produits assez abordables qui permettent aux écoles ou aux universités de s'équiper en matériel, mais aussi après des outils de management, donc que ce soit des outils de gestion de flotte ou même des outils qui permettent de développer des programmes éducatifs, des programmes, mais pas au sens programme informatique, vraiment au sens programme éducatif pour les enseignants à destination des élèves. Pareil, Microsoft avait aussi lancé, alors je me rappelle plus de l'outil, mais ils avaient lancé toute une suite d'outils qui permettent à la fois de créer potentiellement du matériel éducatif, mais aussi de contrôler les j'allais dire les Chromebooks, mais non, du coup, les machines Windows distribuées aux étudiants, et etc., etc. Bref, on voit que ça, je pense que ça marche peut-être un petit peu mieux que s'ils avaient rien fait, mais c'est quand même pas le raz-de-marée, on va dire. Et donc Apple, bah, a priori, prépare la même chose. Donc je sais pas, Nico, si t'as pris le temps de regarder un petit peu la news et de voir un petit peu de quoi on parle.
Rapidement, mais c'est en anglais, j'ai rien compris. Non, je rigole.
Ah, je suis désolé. Mais en gros, ouais, pour le résumer de façon très simple, bah, c'est à peu près la même chose. Donc il y a trois volets, on va dire. Le premier volet, c'est donc le matériel. Donc il semblerait que Apple va se mettre à sortir une nouvelle gamme d'iPad. Ce qui n'est pas forcément idiot, hein, quand on pense, on vient de passer quasiment la première moitié de l'épisode à dire à quel point les Chromebooks ressemblaient de plus en plus aux tablettes. Faut se dire que bah, peut-être que nous, quand on est à l'école, avoir le bon gros ordinateur avec l'unité centrale, avec l'écran CRT et le gros clavier mécanique, c'est peut-être une époque un peu révolue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les élèves, que ce soit à l'école primaire ou même au collège ou au lycée, n'ont plus forcément besoin d'avoir une machine de bureau avec un clavier pour pouvoir avoir accès à du matériel éducatif. Peut-être qu'une tablette, finalement, fonctionne aussi bien. Donc, a priori, donc Apple va sortir une nouvelle gamme d'iPad plus abordable que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Abordable.
Ouais, apparemment autour de $340, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, abordable. On est déjà dans le milieu de gamme, voire le haut du milieu de gamme de chez de Chrome OS. Mais bon, à voir quoi.
Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est que je te pique une. En fait, ils vont sortir un nouveau stylet, un nouveau comment ils l'appellent chez eux.
Le pencil.
Pencil. Voilà. Ils vont le sortir aussi. Et du coup, ça. En fait, en ce moment, j'ai une réflexion autour de l'utilisation des ordinateurs dans les écoles. Alors, les écoles, les petites écoles, tu vois, en France, 6e, 5e, 4e, les trucs comme ça, tu vois, ouais. Où on commence à les faire travailler sur ordinateur. Moi, je suis, enfin, sur ordinateur ou autre chose, moi, je suis pour. Hein. Mais je vais vous raconter ma vie un petit coup. J'ai une nièce qui a des problèmes à l'école parce qu'aujourd'hui, son professeur lui demande de taper tout ça sur un clavier. Quand elle rentre chez elle à la maison, elle fait ses devoirs et il faut tout ce qui soit mis au niveau informatique.
Ouais.
Mais il les oblige à écrire auparavant pour ne pas perdre cette façon d'écrire, justement. Parce que tu l'as remarqué, on n'écrit plus. Ouais. On écrit beaucoup, mais plus manuscrit. Ouais. Et on perd cette façon d'écrire. Et c'est dommage parce que je crois que c'est Prof du Web qu'on avait parlé dans un Eclectic Show, ou c'est peut-être un Tech Café, après, je ne sais plus, qui disait qu'on apprend mieux en écrivant.
Ouais.
On mémorise plus. Et j'ai peur de perdre ça. Et du coup, allez, je suis content qu'Apple sorte aussi un nouveau stylet qui pourrait aller avec leur tablette, ce qui fait qu'on a une feuille de papier, on peut écrire manuellement. Et peut-être qu'ils ont créé un logiciel d'OCR de reconnaissance d'écriture performant qui permet de retranscrire ça au niveau logiciel, enfin, typographie classique d'ordinateur. Et les deux réunis, moi, je trouve ça intéressant. Et ce qui m'embête le plus, c'est que c'est Apple qui le fasse, mais c'est très bien. Mais je suis pour, en fait. Je suis pour une tablette avec un stylet.
D'accord. Bah écoute.
Pas perdre cette façon d'écrire.
Ouais, non, c'est vrai. Et du côté, pour revenir sur les Chromebooks, il y a donc le Samsung Plus et Pro qui sont sortis avec des stylets. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu autant de matériel avec stylet sortir l'année dernière qu'on aurait pu le penser. Donc ok, un point pour Apple, on va dire.
Pixelbook, hein, chez nous.
Comment? Ah oui, le Pixelbook a un stylet aussi.
Comme... En fait tu l'achètes à côté.
Ah oui,
mais
c'est vrai, mais tu vois, il est à part. Apple. Ouais, il est à part. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais bon, ouais, ça reste quand même assez confidentiel. Il y en a d'autres, mais
les Speed 11.
D'accord. Mais c'est quand même pas la majorité, t'es d'accord pour dire ça?
On est d'accord, ouais. Ouais, c'est pas la majorité.
Ouais.
Et ça reste les produits chers, hein, chez nous. Enfin,
ouais, c'est
cher.
Ça. Ouais. Des nouveaux iPads avec un stylet, avec le stylet qui serait a priori remis à jour, peut-être un peu moins cher aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui vaut $99 pour le pencil d'Apple. Mais il y a aussi, a priori, des nouveaux MacBook et des nouveaux MacBook Air. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, parce que là, on parle de machines qui ressemblent très, très fortement à un Chromebook. Donc, on ne parle plus de tablette, du coup. Et donc, il semblerait...
Que ouais, les fans vont dire que c'est les Chromebooks qui ressemblent au Mac.
Ah non, 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 c'est... Oui, c'est ça, c'est les... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est les Chromebooks qui ressemblent... Non, c'est les Macs qui ressemblent aux Chromebooks. Ah, je suis perdu. Ouais, bon...
Je prends leur défense, même si j'ai pas envie. clairement, Mac, ils font des produits qui sont juste magnifiques, hein, graphiquement. Enfin, le Mac Air est sorti, le MacBook Air est sorti avant les Chromebooks, enfin comme on les connaît, en alu, machin. Donc, allez, on peut leur laisser qu'au niveau design, ils sont quand même très très bons. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on les félicite tout le temps parce qu'on leur reprend leur design. Et c'est pour commémorer leur existence et leur fin en même temps d'ailleurs. Mais c'est pour montrer qu'on est reconnaissant qu'ils aient existé.
C'est vrai. Et donc, il semblerait qu'ils ne sont pas encore complètement morts. Les MacBooks ne sont pas encore complètement morts. On troll beaucoup quand même. Il y a probablement un MacBook ou un MacBook Air entrée de gamme qui va être annoncé aussi au cours de cet événement. Donc c'est pareil, c'est des machines qui sont chères. Aujourd'hui, il faut compter minimum au moins 1 000 $, il me semble, ici, pour acheter un MacBook Air. Ouais.
C'est ce que j'ai entendu, hein, à peu près aux alentours de 1 000 €, 1 000 $. Enfin, ouais, on ne sait pas exactement.
Je crois qu'il y a vraiment, si tu as moins de 1 000 $, je pense que tu peux vraiment pas acheter grand chose neuf aujourd'hui chez Apple. Alors après, ça change de temps à autre. Il y a des nouvelles machines qui sont. Des nouvelles machines qui sortent, dont les machines un peu plus anciennes sont un peu bradées et des fois les prix tombent au-dessous de 1 000 $. Mais malgré
tout. Tu peux acheter une batterie pour iPhone à 29 $. Allez, je sors, excusez-moi.
Ouais. Mais du coup, ouais, je pense que c'est ça l'idée, c'est de se retrouver avec des machines qui sont un peu plus abordables. Mais bon, j'espère vraiment que ce ne sera pas 9,99 parce que là, pour le coup, c'est un peu se moquer du monde. Je pense que s'ils veulent vraiment présenter une concurrence sérieuse au MacBook, il faut qu'ils enlèvent au moins 200 ou 300 dollars et avoir peut-être une machine à 500, 600, 700 dollars. Et là, pour le coup, ça deviendra un compétiteur sérieux. Donc à voir, peut-être qu'ils vont nous surprendre de ce côté-là. Moi, franchement, j'ai du mal à imaginer quelque chose d'Apple à moins de 800 $, mais à voir ce que ça va donner.
Et oui, je suis d'accord avec toi, mais si on continue comme ça, donc en fait, ils sortent un produit qui doit concurrencer les Chromebooks, si je comprends bien. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Donc du coup, est-ce qu'ils vont enfin lancer leur Apple Store sur leur MacBook ?
Alors, je crois que c'est l'idée. Disons qu'il y a t'as le Mac App Store qui existe sur macOS depuis quand même pas mal de temps. Donc t'as la possibilité d'avoir des applications qui ont été développées pour Mac et de les acheter via le store. Après, tu peux pas encore installer d'applications développées pour iOS sur un Mac. Est-ce que c'est quelque chose auquel ils pensent? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils travaillent? Pour l'instant, on n'en sait trop rien. C'est pas complètement déraisonnable de penser ça, mais on n'y est quand même pas encore.
J'imagine que l'App Store est quand même beaucoup plus fourni. Enfin, je sais pas, j'utilise pas Mac du tout, mais il est plus fourni que le Mac Store, je crois. Et ce qui fait qu'Apple a remonté la pente, parce qu'une période, ils étaient quand même très, 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 très mal en point. C'est bien leur iPhone. Hein. Si Apple n'avait pas sorti leur iPhone avec leur store bien complet maintenant, ils seraient peut-être plus là aujourd'hui.
Ouais, non, c'est clair.
Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont tenter d'attaquer Chrome OS? Parce que Chrome OS, avec Chrome OS, Google a implémenté le Google Play Store. Alors, pas pour tous encore, je le sais, j'en suis navré, c'est pas moi qui décide, ce serait moi, vous l'auriez tous. Mais Google y va petit à petit. Et je peux vous assurer que ça avance. Vous voyez peut-être pas quand vous avez votre Chromebook depuis 2 ans, puis que je vous dis ça arrive, vous inquiétez pas. Ça arrive toujours pas, mais il y en a plein d'autres. En fait, il y en a beaucoup de Chromebooks, l'air de rien. Il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup de constructeurs, et ça arrive petit à petit. Et une fois qu'on a le Play Store, il prend une autre dimension de Chromebook. On peut jouer avec. Alors, je vous donne un exemple aujourd'hui. Alors, ça sort complètement de l'éducation. Hein. Je suis d'accord, faut pas faire ça quand vous êtes à l'école. Hein. Mais depuis quelques jours. Il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle PUBG. Je ne sais pas si tu en as entendu parler.
Ouais.
Il est sorti sur Android. Il était sur PC. Il a fait un carton. Hein. Le jeu, il n'était même pas encore sorti. C'était déjà le plus vendu au monde. Et il est sorti sur Android, il a explosé des records, là il est déjà à plus d'un million de téléchargements en l'espace de 3 jours, je crois. Et du coup, bah moi je l'ai installé sur mon Chromebook.
D'accord.
Vous voyez, je joue sur Chromebook et ça marche.
Ouais.
Et ça marche. Et là, là tu vas être fin vénère après, parce que si tu l'as pas essayé, tu te dis putain, pourquoi je l'ai pas fait avant. Ça prend en charge le clavier.
D'accord. Donc tu peux jouer avec un clavier à ce jeu-là directement sur un Chromebook. Et on arrive enfin à le Chromebook, machine de jeu dont on parle depuis quelque temps. Le Chromebook devient une machine de jeu sérieuse et respectable et respectée.
Pour en parler plein, parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, la dématérialisation, tu sais, quand tu joues sur le cloud gaming, tu joues sur un serveur distant. Les Chromebooks le font déjà depuis quelques temps. Moi, j'ai deux applications qui permettent de faire ça. Il y en a une qui s'appelle Vortex, que je kiffe vraiment. Ou alors là, je joue à tous les jeux PC, mais un truc de dingue, quoi. C'est d'une fluidité. Il faut juste avoir une bonne connexion Internet. Bref. Que ce qu'on disait au début, hein, c'est une petite aparté, mais voilà, juste pour dire que s'ils pouvaient avoir le Play Store sur l'App Store sur leur Mac, peut-être qu'ils commenceraient à faire de l'ombre à Chrome OS. C'est fou de dire ça d'ailleurs, que Mac va faire de l'ombre à Chrome OS et que c'est pas normalement c'est Chrome OS le challenger, Apple.
Ouais.
D'ailleurs, en parlant de challenger, tu as vu l'étude de Future Source qui est sortie il y a une quinzaine de jours, un peu plus de 15 jours, qui parle de l'année 2017 sur le taux de pénétration des différents systèmes d'exploitation dans l'éducation américaine et internationale. Est-ce que tu l'as lu rapidement ? Il y a un graphique intéressant.
Non, je ne l'ai pas lu.
Et ben du coup, il montre que Chrome OS aux États-Unis est encore leader pour la combien d'années consécutives, j'en sais rien. Alors, en tout cas, ils sont passés à 65%, je crois, si je ne m'abuse, 59,8% de taux de pénétration sur le marché américain de l'éducation. Donc, ils ont écrasé tout le monde en l'espace de 3-4 ans, quoi. Puisqu'on parlait de Mac juste avant, peut-être aujourd'hui qu'ils essayent de faire des MacBook Air moins chers, qu'ils essayent de faire des nouveaux stylets, de nouvelles tablettes, bref, et puis un class kit différent, eux ne pèsent plus que 3,5% du marché, c'est-à-dire rien, quoi. Ou même Android pèse plus que Chrome OS, que macOS. Android, il pèse 7,4%.
Ouais, c'est dingue. Ouais, donc il y a vraiment, on comprend vraiment la crise de panique du côté d'Apple pour faire en sorte de pas complètement perdre du terrain dans le secteur de l'éducation.
Donc je pense que ils vont se réveiller, c'est Apple, ils sont bons, il y a rien à dire, hein. Ouais. Mais il faut se réveiller, hein, parce que ça va finir par devenir difficile de se lever.
Ouais. Et juste pour finir sur la news, donc on a parlé du matériel, on a parlé un petit peu de l'App Store, et donc il semblerait aussi qu'ils bossent sur quelque chose qui s'appellerait ClassKit, qui serait une sorte de, alors vous savez, les health kits, les AR kits, enfin, en gros, kit, c'est une sorte de, enfin, en fait, c'est le nom des frameworks, home kit aussi, c'est le nom des frameworks développés par Apple. Et donc, class kit, l'idée, ce serait de faire en sorte d'avoir un framework pour donner la possibilité aux professeurs de développer du matériel éducatif, que ce soit des quiz, des tests, etc., etc., à destination des étudiants. Donc voilà, donc il y a un certain nombre, on va pas toutes les faire, mais il y a un certain nombre d'idées derrière, de choses qui ont été plus ou moins, qui sont de l'ordre de la rumeur presque confirmée, et puis des choses sur lesquelles on a un petit peu moins de visibilité, mais on en saura plus dans 3 ou 4 jours, et puis voilà, puis on en reparlera peut-être lors du prochain épisode. Donc voilà, on a fini.
C'est super intéressant cette humilité. L'émulation que les développeurs, enfin les grosses structures, les GAFAM font, en fait, on va enlever le F maintenant, je pense, dans peu de temps, les GAFAM ont, voilà, il y en a un qui sort un super truc, les autres ils vont copier.
Ouais.
Enfin, ils copient pas, ils se défendent, en fait. T'as un beau truc, bah copie-le, enfin forcément, on va pas te faire tuer. Et là, on voit que Apple, il n'est pas resté sans sa bulle en disant nous on fera jamais ça, de toute façon on est les meilleurs. Non, pour une fois ils prennent le taureau par les cornes et ils essayent de pas se laisser marcher dessus.
Ouais.
Pour une fois, hein, c'est pas la première fois, mais c'est intéressant de voir la réaction qu'ils ont face à Chrome OS. Il y a Windows avec Windows 10, je sais même pas comment ils l'appellent. Il y avait le Windows 10S là qui vient simplement une option de Windows 10 maintenant.
Ouais.
Ils avaient essayé d'intégrer leur store, le Windows Store, qui est plutôt pauvre, un peu compliqué pour eux. Et, mais on voit cette émulation autour du cloud, du cloud, comment on dit ça,
Cloud
l'OS,
gaming.
ouais, pas cloud gaming, mais tel pour l'éducation où tout le monde se dirige vers le cloud en fait, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était un serveur, enfin c'était interne, c'était chacun sa petite machine. Et là, on voit que ça commence à s'ouvrir. Et c'est plutôt intéressant.
Exactement. Bon, sans transition, après avoir parlé, non, c'est une transition quand même, après avoir parlé d'Apple, on parle de Google. Un petit point rapide sur Google Home. Alors déjà, au passage, Nico, tu me disais que tu as commencé à tester un petit peu Amazon Echo. Donc j'essaie de faire une blague, t'as des échos intéressants à nous donner sur Amazon Echo, Nico?
Ah ouais, j'en ai,
Merci de rigoler.
bravo. Bravo, bravo. Ouais, j'en ai. C'est assez amusant. C'est assez amusant. Donc ça fait quoi? Ça fait 15 jours, je crois, que je l'ai, un truc comme ça. Et j'ai gardé mes Google Mini, évidemment, parce que je vais pas m'en défaire. Par contre, on n'est pas sur la même gamme de produits, hein, déjà. On est sur une gamme de prix plus élevée. Je crois qu'il va valoir 150 € en France, ou 149 €, bon, peu importe, on s'en fiche, ou 139, voilà. Par contre, c'est un beau produit, c'est un beau tube qui fait, je sais pas, 5 cm de diamètre. Il pèse son poids, il est lourd. Et il y a un truc que j'adore dans Amazon Echo, c'est son son. Alors, pas comparable au Google Mini, peut-être plus au Google Home classique, peut-être. Je crois que tu as un Google classique, toi.
J'ai les deux, j'ai le mini et le classique, ouais. Enfin, j'ai deux classiques. Ouais, j'ai la réponse est
Ouais,
oui.
j'en ai plein.
D'ailleurs, mais attends, juste pour te reprendre, tu dis qu'il est à 150 $ l'Echo deuxième génération en France, 150 € plutôt.
C'est des rumeurs, hein. Il n'y a pas de tarif puisqu'il n'est pas
Ah
encore
ouais,
sorti.
parce qu'en fait, moi j'ai regardé, alors je l'ai vu chez Best Buy, là il était à 75 $ en réduc, et du coup je me suis dit, mais alors attends, il est à quel prix en général, et donc là je suis sur Amazon.com et il est à 99 $ ici. Donc
Peut-être 99 dollars. Bon,
peut-être
très
qu'il
bien.
sera à 99 € aussi en France, je sais pas quand il sortira, parce que toi du coup tu fais partie des heureux élus et tu l'as en exclusivité, c'est ça?
Et une petite poignée, une grosse poignée, je pense quand même, en France. Petite histoire, pourquoi je l'ai vu? C'est pas parce que je suis un influenceur web énorme, hein, comme tu disais avant la préparation. C'est parce que je dois avoir un accent de merde, comme je te disais. J'ai un accent franc-comtois, proche de l'accent suisse ou de l'accent belge. Pourtant, j'ai rien à voir, j'ai pas d'argent et j'aime pas les moules frites. Alors du coup, c'est bizarre. Mais bon, j'ai un accent un peu bizarre et Amazon souhaite avoir toutes les tonalités, toutes les façons de parler, les patois de chaque région. Et je pense que je suis très très pourri. Et du coup, ils se sont dit, lui, il faut qu'on lui envoie. Et d'ailleurs, ça marche bien, leur truc, leur test, hein. Par exemple, je ne suis incapable de lancer une radio avec Amazon.
Alors du coup, mais tu lui parles en français ou tu lui parles en patois franc-comtois?
Ah, mais je parle en français. Non, mais je ne connais même pas le patois franco-toi.
Je te connais. Ouais, non, mais écoute, c'est assez marrant. Je pense que ce serait cool de savoir si en effet ils font. Ouais, ça doit être un test en fait pour s'adapter au français, parce que faut savoir que l'Echo est disponible au Canada déjà depuis un petit moment, donc l'Amazon Echo est disponible en français, mais en français canadien. Donc je veux bien croire qu'il y a des petits ajustements à faire pour être sûr que ça marche avec la majorité de la population française. Et puis il est aussi présent en Europe, en Allemagne, si ma mémoire est bonne. Donc la France serait le deuxième pays européen sur la liste.
Non mais c'est bien, c'est un beau produit. Il est joli, il est mignon, il est magnifique. Le petit anneau bleu qui tourne quand on échange avec lui, c'est vraiment sympa. Non, il est beau. C'est un beau produit. Bon après, on se doute bien que le marché français de la consommation quotidienne passe par Amazon, hein. On va pouvoir commander nos couches et compagnie directement depuis ça, voire notre vin ou je sais pas. Il comprend presque tout. Il est plus, pour l'instant, il est plutôt sympa. Et comme je te disais, il y a une interaction plus humaine pour l'instant que Google Mini.
Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah écoute.
Ça casse pas des briques, hein. C'est pareil que Google Mini. C'est dans le même esprit.
Ouais, c'est ça.
Après, on n'est pas sur la même gamme. J'ai testé, moi, j'ai le Google Mini et le Amazon Echo. Ils sont pas tout à fait dans le même prix. Il y en a un 50, il y en a un 100, visiblement. Ça se ressent sur le son.
D'accord.
mais principalement le son.
Okay.
Le reste, je dirais, voilà, elle te parle pareil. Bon, après, l'interaction, tu commences par un bonjour, Alexia. Enfin, voilà, c'est rien de transcendant, mais c'est sympa quand même au quotidien de pouvoir discuter. Donc, mon prochain challenge, c'est de les faire parler les deux entre eux.
Les deux côte à côte, ouais. Ouais, tu vois, moi, je l'ai, justement, là, l'Amazon Echo que j'utilise très, très rarement, il est dans le bureau, là, juste à côté, et je t'avoue que je m'en sers de façon très occasionnelle. Mais pour être très honnête, c'est clair que c'est plus en gros l'équipe que tu choisis, quoi. Est-ce que t'es team Amazon Echo ou team Amazon, ou est-ce que t'es team Google? Et à partir du moment où tu t'embarques dans un écosystème, ça a pas forcément de sens d'avoir l'autre, quoi. Je suis assez,
Clairement.
ouais, je suis assez. Enfin, je me dis que Amazon Echo a beaucoup de parts de marché ici, donc il y a quand même un bon support des développeurs tiers, etc., etc. Mais finalement, toutes les fonctionnalités que tu trouves sur l'Amazon Echo, tu les retrouves aussi sur le Google Home. Et puis la partie achat, j'ai pas forcément besoin d'avoir un assistant, une enceinte intelligente pour passer mes achats sur Amazon, en fait. En termes d'usage, on va dire que c'est pas forcément plus compliqué d'ouvrir un ordinateur ou d'ouvrir le téléphone et de faire un achat directement via l'Amazon, via l'app d'Amazon. Donc voilà. Donc bon,
Ouais,
c'est.
mais
Vas-y,
oh, tu
vas-y.
vois, ils ont inventé le one click Amazon. Tu non, comment ils appellent ça? Tout est mémorisé, tu cliques une fois, t'as commandé.
Ouais, c'est vrai.
Là, ils ont inventé le one voice. Je sais pas comment on peut l'appeler, où tu lui dis, il commande quoi. C'est encore
Ouais.
pire quoi. Tu te dis, oh merde, j'ai plus de chocolat. Pouf, je vous le commande. Oh merde, non non, attends.
Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est. Il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se passer du côté de la grande distribution aux États-Unis, avec Amazon qui a racheté donc Whole Foods, une chaîne de supermarchés dont vous avez probablement entendu parler. Et puis même Amazon Prime, apparemment, qui commence à aussi prendre de l'ampleur, et Instant Prime en France, avec la livraison dans l'heure ou dans les 2 heures en région parisienne. Mais malgré tout, c'est quand même un produit de luxe, hein. On parle quand même de. Enfin, je sais pas si tu as essayé d'acheter du papier toilette sur Amazon, par exemple, ou tu vois ce genre de truc, on va dire des produits de consommation courante. C'est quand même pas bon marché du tout, quoi. Donc à moins d'avoir envie d'acheter son papier toilette 5 ou 6 fois le prix, son shampoing et son savon à des prix qui sont beaucoup plus élevés qu'au Leclerc ou au Champ du Coin, je pense que malgré tout les usages vont quand même pas forcément se développer aussi rapidement qu'on pense. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui me trompe.
Ouais, on verra. De toute façon, ils ont bien l'intention de conquérir le monde, Amazon. On le voit, enfin, en capitalisation boursière, ils sont énormes. Enfin,
C'est
bref,
vrai.
ils gagnent de l'argent. Ils gagnent, ça y est, ils se versent des dividendes. Avant, ils gagnaient de l'argent, mais ils investissaient tout. Maintenant, ils
Ouais,
se
c'est
versent des
vrai.
dividendes. C'est un signe de bonne santé. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Mais bref, si on venait à notre Google Mini, en fait, parce qu'en
Ouais,
fait, Amazon, c'est bien, mais
on a fait une petite digression, ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte qu'on va encore faire plus d'une heure. On est vraiment incorrigible, hein, Nico. On n'arrive vraiment pas à tenir en moins d'une heure. Mais donc, ouais, pour conclure rapidement sur Google Home. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur les Google Home qui s'appelle les Google Home Routines. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle en français, si c'est un nom différent, mais l'idée en fait c'est de pouvoir enchaîner toute une série d'actions juste avec une seule commande. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous dites bonne nuit, et je crois que ça existe déjà plus ou moins. Alors je fais pas trop ça, mais il me semble que si on dit bonjour Google, bonne journée ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas comment est-ce qu'on le dit en français. Il y a une série d'actions potentielles qui peuvent se déclencher. Et là, l'avantage des routines, en fait, c'est que vous pouvez directement programmer ces actions. Donc ça peut être quand vous dites hey Google, bonjour, ou bon matin. Non, comment est-ce qu'on dit en français? Ouais, bonjour peut-être. On peut avoir les infos du jour qui jouent, on peut avoir les lumières qui s'allument, on peut avoir si on a de la domotique, on peut bah, les lumières, ouais, par exemple. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire en sorte de programmer cette série d'actions en fonction d'un mot-clé qui se déclenche à partir d'un mot-clé. Et donc on peut en créer autant qu'on veut. Alors c'est pas aussi libre qu'on penserait. Il y a quand même un certain nombre de restrictions Donc là, l'exemple que j'ai, par exemple, c'est bedtime. Alors, par exemple, pour bedtime ou bonne nuit, on peut mettre son téléphone en silencieux, on peut demander à Google de nous donner la météo du lendemain, on peut demander à Google de nous donner le premier événement du lendemain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ajuster les lumières, ajuster le thermostat et ajuster le volume média de votre téléphone ou du coup de votre Google Home. Donc
Me
voilà.
fait penser à, je sais pas, ça me fait penser à, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être la même chose, les IFTTT.
Ouais, c'est ça, if this and that. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que l'idée, c'est d'ouvrir. Alors, les gens qui sont des utilisateurs avancés savent qu'on peut déjà utiliser IFTTT avec Google Home et configurer. C'est des choses, en fait, qui étaient déjà disponibles, mais bon, fallait creuser un petit peu et c'était pas forcément le truc le plus facile d'accès, on va dire. Et là, l'idée, c'est de mettre ça directement dans l'application Google Home et de donner accès aux utilisateurs, on va dire, un peu plus intermédiaires à ce genre de fonctionnalité sans avoir à aller connecter votre compte Google et votre Google Home à IFTTT et configurer votre routine IFTTT. Donc voilà. Donc on va dire que c'est un peu une première étape vers l'automatisation de tâches. À voir un petit peu. Il y a des gens qui disent qui étaient un petit peu déçus par la présentation de cette fonctionnalité en disant que c'était pas si avancé que ça, parce que par exemple, on était assez restreint dans le choix des actions qu'on pouvait associer aux routines. Mais
Mais
on va
ça
dire
va
que ouais, c'est ça.
évoluer.
Ça va probablement évoluer. On va dire que c'est une bonne introduction. Voilà. C'était la petite news Google Home.
Une dernière, je crois, de news sur Google Home avant de nous quitter. Ah, sur Google Home Mini.
Ah, ben oui, bien sûr, Nico. Donc, on avait lancé un
Bien.
concours.
Eh ouais.
on avait lancé un concours. Donc, il y a deux épisodes, du coup, parce que comme tu l'as dit, le dernier épisode, c'était un épisode hors série. Et donc, on vous avait demandé de nous suivre sur le CKB Show et de retweeter l'apparition du dernier épisode. Et donc,
Alors, c'est ça.
on a un vainqueur.
C'est.
Vas-y.
Alors, vous avez été plutôt nombreux. Alors, on n'a pas une grosse communauté, donc c'était plutôt facile de gagner, hein. On avait plutôt une chance sur 80 pour gagner plutôt qu'une chance sur 8 milliards. Donc, c'était dommage de ne pas jouer, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, ceux qui n'ont pas joué, bah, ils ont perdu, hein. Comme dirait la Française des Jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance, évidemment. Et voilà, donc c'était la même chose chez nous. C'est un slogan qu'on va reprendre également. Et du coup, on a un gagnant, on l'a tiré au sort. Donc, il s'appelle, alors je vais l'ébrécher parce que c'est pas un nom facile, c'est NXM3. 310 qui a été tiré au sort par notre huissier de justice qui avait une main très innocente et donc on va le comment on dit l'appeler le tweeter lui
Tweeter.
envoyer un petit message pour voir comment s'organiser pour lui envoyer son Google Home Mini voilà donc je le félicite bravo à toi bravo à vous je sais pas si bravo en tout cas d'avoir retweeté continuez à nous retweeter à partager nos podcasts. On est content, il n'y a pas toujours quelque chose à gagner, hein, évidemment, mais continuez quand même. Ce que vous avez à gagner, c'est de nous entendre encore et encore.
Voilà.
Tu vois, ça, c'est important.
Exactement. Non, mais ouais, on apprécie les échanges qu'on a avec vous. Et puis, donc, on en parlait tout à l'heure, on a aussi lancé un channel Telegram, un groupe Telegram dans lequel vous pouvez nous rejoindre et participer, et discuter avec nous suggérer des sujets, nous suggérer des nous faire des retours sur des fonctionnalités que vous utilisez ou avec lesquelles vous avez sur lesquelles vous avez du feedback. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à venir discuter avec nous sur Telegram. Et on a aussi lancé un site dédié, enfin Nico a lancé un site dédié, qui est ckbshow.fr. Donc voilà, donc tous les épisodes, toutes les notes de l'émission, le lien vers le channel Telegram, vers Twitter, vous pouvez tout retrouver sur ckbshow.fr.
Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour pas nous trouver. On a tout segmenté. Vous allez tout sur CKB Show. Tout est là. Vous pouvez aller faire un tour sur mycronbook.fr hein, quand même. Pas de problème.
Bien sûr. Vous devez aller faire un tour sur
Telegram.
mycronbook.fr.
Tournable. Telegram, juste pour revenir dessus, vous pouvez aussi juste nous dire bonjour. Enfin. Hein. Moi, je pense que ça peut être un univers complet, ouvert à tout. On peut échanger sur Chromebook, mais vous voyez, on n'est pas fermé pour parler de Mac, et on adore Mac, et on adore les tailler en pièces d'ailleurs. Puis les fans vont adorer nous détester, donc c'est cool. On peut parler de tout et beaucoup de choses. Vous pouvez nous apporter les, peut-être le prochain CKB Show, c'est peut-être vous qui allez nous donner l'idée du CKB Show. Le sujet peut-être, et si vous voulez le faire évoluer aussi, tant qu'à faire, allons-y, échangeons, dites-nous ce que vous voulez entendre, ce que vous ne voulez plus entendre, ce que vous voulez qu'on fasse, et ainsi de suite. Donc on est prêt à prendre tous vos retours et prendre tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, à partir du moment où ils sont constructifs.
Exactement.
Comment on te retrouve, Thomas?
Vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi. Vous pouvez aussi me retrouver dans Telegram d'ailleurs. Hein. Je suis bien présent, donc n'hésitez pas à discuter avec nous dans Telegram. Et puis sinon sur Twitter, donc moi c'est @lethargiquepanda et puis aussi @ckbshow si vous voulez discuter avec nous sur Twitter. Et toi Nico, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Et pareil que toi, hein. Moi je suis partout. Facebook encore, peut-être pas longtemps, avec les dernières nouveautés qui sont tombées sur la tête de nos amis, de notre ami Zuckerberg. Bon, pour l'instant sur Facebook, je vous mettrai les liens dans l'émission de toute façon. Twitter, évidemment, Nico Chromebook, qu'est-ce qu'il y a, Google+, le Telegram où j'essaye dès que j'ai une petite news, un truc qui n'a pas lieu d'avoir un article, j'essaye de vous le partager directement avec une photo de mon écran ou autre chose comme ça. C'est pas forcément très joli, mais ça me permet de ne pas avoir à réfléchir à l'écriture d'un article. Et tac, je vous l'envoie, je l'ai vu, je suis content, je vous fais partager, je vous partage ce que j'ai trouvé. Ouais. N'hésitez pas à faire la même chose, hein, c'est cool. Moi, vous êtes à un endroit où il y a un gros fanion Google qui apparaît puis qui parle de Chromebook. N'hésitez pas, vous êtes dans un magasin, on vend un Chromebook. Allez-y, faites une photo, envoyez-la nous. Moi, je suis curieux de savoir si dans les autres parties du monde, on parle de Chromebook. D'ailleurs, il y a Laurent qui, lui, vient de Nouvelle-Calédonie, qui nous suit, qui est sur Telegram déjà, qui nous dit qu'il utilise déjà son Chromebook. Donc, je lui fais un petit coucou, un petit clin d'œil. Salut Laurent. Donc, c'est plutôt sympa. Il échange avec nous et moi, je suis plutôt content d'avoir des personnes de l'autre bout du monde. Donc, entre toi et lui, dis donc, je fais le grand écart. Hein. Et puis voilà, c'est simplement. Bon, on peut me retrouver partout, donc vous allez me retrouver si vous voulez me retrouver.
Parfait.
Ok. Bon, bah, on va. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin et puis je clôture?
Ouais, bah non. Écoute, on arrive à la fin, donc voilà. Comme d'habitude, on a fait un peu plus d'une heure, mais bon, écoute, on se refait pas, comme on dit. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. On a fait quelques petits tests, donc vous pouvez vous rendre compte que il y a peut-être des petites améliorations possibles côté audio. On a changé un petit peu de la façon dont on enregistre. On enregistre l'épisode, mais je vous promets que si c'était pas complètement parfait cette fois-ci, ce sera mieux la prochaine fois. Voilà.
Bah, ça c'est cool. Merci Thomas de ta participation. En l'occurrence là, elle était importante aujourd'hui. Merci de ta participation aussi bien logisticien que de discourateur. Discourteur. Bon bref, vous m'avez compris. Les mecs ils vont croire que je suis nul. Et ben, c'est pas grave. Merci à vous tous de nous écouter. Juste encore une petite chose. Le CKB Show est entièrement subventionné par vous, en fait, podcasteurs. Comment on a dit déjà?
Poditeur.
Attends, je vais me le noter parce que j'ai l'air con à la fin de tout le poditeur. Ça y est, j'ai noté. Il est subventionné grâce à vous. Et le Google Mini qu'on va envoyer à CXNM310. Bah, c'est vous qui l'avez payé, donc n'hésitez pas à continuer avec vos Tipeee à nous encourager pour pouvoir continuer à faire des petits challenges, des petits concours et puis à faire évoluer le CKB Show puisque Thomas vient d'investir dans un logiciel audio, j'ai investi dans un site internet et ça c'est grâce à vous. Donc on vous en remercie tous et on vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine et ça c'est dans très bientôt.
À bientôt. Ciao.